Comment est-il? Comment est sa cellule? S'il fait des dessins, des croquis? Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine.
De toute façon, sauf pour lire.
Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
C'était des BD porno de 8 pages.
Bah une seconde, non? Je suis pas fini de lire.
Bande FM.
Vous voulez que je vous dise? Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée.
Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
Bonjour, vous êtes bien sur Timbre FM, au 106.6. Bienvenue dans la Bande FM, l'émission de bande dessinée. Cette semaine, les femmes sont à l'honneur sur les ondes, et nous aussi, nous avons souhaité jouer le jeu. J'ai la chance d'être accompagnée par quatre chroniqueurs qui sont ici pour nous présenter des BD écrites par des femmes. À la technique, nous avons Thomas. Bonjour Thomas.
Salut Charlotte.
Ça va?
Bon, très très bien, je gère les boutons, tout se passe bien.
Tant mieux. Tu vas nous présenter quelque chose?
Oh bah oui, je suis venu avec mes BD quand même. Moi je vais parler de J'y vais, mais j'ai peur.
Ouh, c'est mystérieux. François est là aussi, bonjour François.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui?
Aujourd'hui, on parle de Château Latente.
Ouh, mais tout ça est si mystérieux. On a aussi deux petits nouveaux qu'on est très contents d'accueillir.
Ils sont contents, les deux petits nouveaux.
Oh, pardon. On me l'avait fait aussi, alors. Alors, on a Alexandre. Salut Alexandre,
salut,
ça va?
Salut Charlotte, très bien, et toi?
De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Je vais vous parler de Culotté de Pénélope Bagieu.
Ah, super. Et toi, Marvin, ça va?
Ouais, ça va, nickel. Moi, je vais parler de Clémentine de Tilly Walden.
Ok, quel beau programme. Alors moi, je voulais vous dire un petit mot parce que je suis très très heureuse qu'on mette les femmes à l'honneur parce que je trouve que la bande dessinée, c'est un milieu plutôt masculin. Et même si ces dernières années, les femmes sont de plus en plus visibles dans nos librairies et dans les festivals de bande dessinée, non sans devoir insister un petit peu peut-être, mais les autrices ont toujours du mal à se faire leur place, une place à la même hauteur que les auteurs. Et elles sont souvent renvoyées à leur statut de femme, surtout quand on parle de BD féminine ou de BD de filles. C'est pour cela qu'elles ont créé le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Et elles ont même écrit une charte contre le sexisme. Et parmi les points abordés, je ne vous les lis pas tous hein, parce que bon, c'est un peu long, mais je vous encourage très fort à aller voir leur site internet et les lire parce que c'est très intéressant. Il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention et c'est: la bande dessinée féminine n'est pas un genre narratif. L'aventure, la science-fiction, le polar, le romantisme, l'autobiographie, l'humour, l'historique, la tragédie sont des genres narratifs que les femmes auteurs maîtrisent sans avoir à être envoyées à leur sexe. Est-ce que c'est une problématique qui vous évoque quelque chose, vous ?
Ben, moi, carrément, parce que ça traverse aussi la BD dont je vais parler, justement, où je détaillerai tout à l'heure, mais il s'agit de Clarisse Kremer qui raconte sa navigation autour du globe, autour du Vendée Globe, et qui exprime ça, justement, à la fin, en disant qu'elle en a un petit peu marre, des fois, qu'on parle d'elle toujours comme d'une femme marin, et que, simplement, elle se considère comme un marin. Elle utilise ces mots-là, d'ailleurs, dans sa BD. Et de dire qu'à un moment donné, l'évolution, ce serait de se dire, il y a des différences. Il y a des marins grands, des marins petits, des marins gros, des marins fins. Et puis, il y a des marins femmes, il y a des marins hommes, etc. On peut faire la même chose avec les autrices et les auteurs de BD.
Je crois que c'est vraiment là le point dont elle traite. Quelqu'un d'autre autour de la table ou vous êtes intimidé? Vous voulez qu'on passe à la suite?
C'est une problématique un peu plus personnelle. Généralement, j'oublie de regarder le nom des auteurs. Et puis après, je fais « Ah, ça a été écrit par une femme, trop bien, je vais pouvoir en parler sur la Bande FM. »
Top. Ça, c'est vraiment un réflexe qu'on aime bien. Alexandre, Marvin, quelque chose à dire? Rien à dire?
C'est surtout que moi, quand je choisis une BD, je fais pas forcément gaffe à qui l'a écrit, en fait. Souvent, ouais, je regarde le résumé ou quoi, et je regarde un peu les planches. Et c'est ça qui va me faire choisir, en fait, si est-ce que je la prends ou pas.
Intéressant.
Moi, personnellement, j'aime bien aller dans les librairies. Souvent, ils font un rayon qui parle de... Ou c'est des romans graphiques qui parlent de féminisme. Et je suis plus sujet à acheter ce genre de BD, parce que ça m'intéresse, pour le coup.
Ok, super.
Eh ben Charlotte, tu nous as pas dit de quoi t'allais nous parler toi aujourd'hui?
Ouais, moi je vous ai pas dit, mais je vais vous en parler maintenant. Alors je vais vous parler de La fille dans l'écran de Manon Devaux et Lou Luby. Alors, je vais commencer par une de mes introductions très longues dont j'ai le secret. Je vous parlais tout à l'heure du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme et de leur combat contre notamment le marketing genré des bandes dessinées. Certains diront « Bah, ça va, c'est bon, ça avance. Elles nous saoulent, les féministes. » Et voici pourquoi je pense qu'ils ont tort. Commençons par un constat simple. Dans notre belle association de la bande FM, il y a une majorité d'hommes. Et autour de cette table, il y a une majorité d'hommes. Quand on s'est mis d'accord pour faire cette émission pendant la semaine thématique de la bande FM, de Timbre FM, pardon, j'étais ravie. Et oui, car je suis la féministe de service. Si vous réécoutez nos émissions, vous m'entendrez régulièrement noter l'absence de personnages féminins ou leur écriture pas ouf. Vous m'entendrez m'agacer lorsqu'on parle de Bastien Vivès. Et vous remarquerez peut-être, bon j'ai pas fait les stats mais à la louche quoi, que je suis la chroniqueuse qui présente le plus d'autrices. J'aime tout simplement parler des femmes. Je suis consciente des luttes que nous menons et c'est un sujet qui me passionne et qui m'anime. J'essaye dans ma vie de femme et dans ma vie de prof de faire des choix conscients pour équilibrer un peu la balance. Et pourtant, ma première pensée, quand j'ai su que je serais la seule femme autour de cette table, ça a été « mince, faut que je leur trouve une histoire badass et pas une BD de gonzesse. » Aïe, ça fait mal à mon petit cœur mou de féministe. Bien malgré moi, j'ai internalisé que les histoires de femmes sont une catégorie inférieure. J'avais envie de montrer qu'il n'y avait pas que les hommes qui peuvent écrire des histoires dignes des hommes. Quelle tristesse. Mais toutes les histoires sont dignes des hommes. Et s'ils ne s'intéressent pas à une histoire car elle est écrite par ou qu'elle est à propos des femmes, alors ils ont tort. J'ai envie de travailler à ce qu'on arrête cette hiérarchisation entre les histoires de gonzesses et les histoires de bonhommes. Et je vais vous présenter tout simplement La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Une histoire de femme, une histoire d'amour et une BD badass. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Cette BD, c'est un bijou. C'est un travail de ouf. C'est une de ces BD qui m'ont emporté et que j'ai lu d'une seule traite sans pouvoir m'arrêter. C'est une histoire simple, quotidienne, comme il en arrive tous les jours. Deux personnes se rencontrent, un peu par hasard, en se croisant au détour d'un chemin sur la grande toile emmêlée, le labyrinthe tortueux des internets. Elles apprennent à se connaître, s'apprécient, puis tombent amoureuses. Non, ce n'est pas un spoil. Elles sont littéralement en train de s'embrasser sous les couvertures. C'est une histoire simple, basique, comme dirait l'autre. Alors quoi? Pourquoi elle est si belle, cette bande dessinée? Eh bien, à mon sens, pour plusieurs raisons. J'aime que si l'histoire d'amour est le fil rouge, il n'est pas le sujet entier de la bande dessinée. Je dirais même que le sujet de cet ouvrage, c'est plus l'amour de soi, l'acceptation de soi, de ce qu'on est et de ce qu'on veut. C'est l'histoire de Colin, l'histoire de Marley, et l'histoire de Colin et Marley qui vont tomber amoureuses, oui, mais surtout qui veulent se pousser l'une et l'autre à être plus honnêtes et bienveillantes envers elles-mêmes et se donner le courage d'aller chercher ce qu'elles veulent vraiment. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette bande dessinée, elle est aussi belle car c'est un travail à quatre mains. Manon Desvaux dessine Colline sur la page de gauche et nous conte ses rêves d'illustration, son anxiété et la monotonie rassurante de la maison de ses grands-parents à Périgueux. Lou Luby, elle, dessine Marley sur la page de droite et nous décrit sa vie à Montréal où ses rêves de photos ont été délaissés pour un travail de serveuse dans un café et une vie de couple bien rodée. Le dessin de Manon Desvaux est en noir et blanc, ses traits sont organiques, bordéliques, comme c'est noté dans la BD. Et j'aime particulièrement ce style un peu croqué, inconstant, dans lequel je retrouve un peu les incertitudes de Colline. Le dessin de Lou Luby est simple et efficace, les traits bien nets et les couleurs enveloppent délicatement la vie de Marley, qui finalement n'est pas si joyeuse que ça. Mais ce qui, pour moi, fait vraiment toute la beauté de cet ouvrage, c'est la façon habile dont les deux autrices ont su coopérer, travailler ensemble, mettre en scène les deux femmes, s'harmoniser tout simplement pour que l'histoire ne perde jamais en fluidité. Elles ont développé une myriade de petites astuces de construction et de mise en page pour que l'on sente le lien se créer entre les deux femmes. Et elles ont aussi réussi à laisser, laisser leurs dessins se rejoindre, se plaire et se compléter en même temps que le personnage. Vous l'aurez compris, je suis totalement convaincue. J'espère que vous le serez aussi et je vous invite donc avec enthousiasme à découvrir La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby, un morceau à quatre mains et une mélodie douce chantée en chœur et publiée aux éditions Marabule.
Merci Charlotte. Alors moi personnellement je vais rien faire à part te féliciter pour ta chronique et te demander si on peut dire quelque chose maintenant.
Oui, bah je sais pas. Je vous montre la BD du coup parce que je l'avais cachée.
C'est l'avantage nous d'être en studio, c'est qu'on peut voir la BD.
Et donc c'est super. Enfin moi j'ai été hyper impressionnée par le travail d'équipe qu'elles ont fait pour le coup. C'est rare qu'on félicite des autrices pour leur technique, pour l'architecture de leur bande dessinée. Et là c'est vraiment incroyable comme elles ont réussi à vraiment. J'ai fait un bruit de livre, pardon, François. Là, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà.
C'est vrai que ça donne très envie. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà lu ce genre de choses, effectivement, en division, page gauche, page droite, et en plus, du coup, de mêler les styles de deux autrices. J'avoue qu'à la couverture, on ne voit pas forcément trop qu'il y a deux styles bien différents.
Ouais, on sait. Mais parce qu'en fait, ils se complètent vachement bien. C'est plus à l'intérieur que tu vas voir, où là, c'est un peu plus bordel, et là, c'est un peu plus... Ouais, ça n'est pas du tout radiophonique ce que je fais.
Pas du tout.
On peut.
Non, mais c'est ça que ça donne bien envie de. Ça donne bien envie de découvrir. Effectivement, déjà, ça fait assez moderne, si j'ai bien compris, une histoire d'amour qui commence via Internet.
Ouais, tout à fait.
Et qui permet cette séparation en page gauche-droite. Et ça m'intrigue de voir ce qui fait que cette BD est vraiment badass.
C'est la technique et l'architecture pour moi. Hein. Clairement, c'est vraiment un boulot de fou.
Alors, c'est drôle parce que. Je crois que je l'ai lu en fait, mais je ne m'en souvenais pas bien. Du coup, je vais la relire.
Bah ouais, bonne idée.
Mais on voit la séparation justement, noir et blanc sur la page de gauche et en couleur sur la page de droite.
Ouais.
Et ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Et...
Mais sauf quand elles sont ensemble. Par exemple, Alexandre, il est sur une page où elles se rencontrent enfin dans la vraie vie, où là, il y a de la couleur et du noir et blanc en même temps, et du coup, c'est vraiment très beau.
Personnellement, j'aime beaucoup ça. Ça montre, on voit que c'est la même temporalité, mais c'est pas, du coup, c'est pas le même décor. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon,
merci Charlotte. Oui, ouais, faut qu'on enchaîne, mais de rien. Parce qu'on a plein de bandes dessinées et plein de choses à dire. Et du coup, c'est toi, François, maintenant, qui va enchaîner et nous parler de Château Latente.
Alors oui, aujourd'hui on parle de Château Latente par Linda Medley. Alors Linda Medley, elle a baigné dans l'univers de l'illustration de contes pour enfants d'abord, puis dans le milieu du comics, où elle a fait aussi bien les dessins que l'ancrage et les couleurs. Toujours pour d'autres séries, et c'est finalement Franck Mignola, excusez du peu, qui l'a convaincu de faire sa propre série. C'est alors qu'est né Château Latente, Castle Waiting dans son titre original. Publié en 1996 aux États-Unis, en format comics à la petite semaine, sa publication s'étalera jusqu'en 2011, oscillant entre auto-édition et collaboration avec différentes maisons d'édition, jusqu'à avoir 2,5 volumes, qui n'arriveront en France qu'à partir de 2007 aux éditions Ça et Là, avant d'être enfin repris par Delcourt en 2013. Ok, c'est bien beau tout ça, mais Château Latente, qu'est-ce que c'est exactement? Petite lecture. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans une époque si heureuse que ni vous ni moi n'en verrons jamais de pareil, une ville du nom de Poutny. Dame Fortune veillait sur Poutny. Son roi était aussi sage que bon, la paix régnait sur ses environs et son port florissant accueillait des navires de commerce venus de par le monde. Tout artisan ou marchand qui ouvrait boutique dans la ville de Poutny faisait immanquablement fortune, à croire que ses étroites ruelles étaient pavées d'or. Les habitants de Poutny étaient heureux, ils avaient de beaux jours devant eux, et leur vie était simple comme tout. Bon, vous vous en doutez, rien n'est jamais aussi simple. Et en fait, c'est le malheur de la reine qui n'arrive pas à avoir d'enfant qui pousse le roi à rencontrer une congrégation de sages-femmes, bon, des sorcières hein, d'après les dires, afin qu'elles les aident à avoir un héritier. Seulement, un peu plus loin dans la forêt, vivait une autre sorcière. Mais le roi répugnait à lui rendre visite, car l'art qu'elle pratiquait était aussi noir que l'intérieur de votre chapeau à minuit. Vous vous en doutez, être mis à l'écart est rarement bien pris par les sorcières dotées de pouvoirs obscurs, et lorsque la princesse naquit, que les sages-femmes lui prodiguaient moult dons en se penchant sur son berceau, la maléfique Malde lui fit, elle aussi, une prédiction. Dotée de tous les dons que lui ont prédit mes sœurs, pendant 15 ans, Et à son 15e anniversaire, notre parfaite petite princesse se piquera le doigt à un fuseau et elle en mourra.
Ça rappelle quelque chose.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça dit quelque chose, ça.
Je pense que toute ressemblance, effectivement, n'est pas fortuite. Les sages-femmes réussissent toutefois à contourner le mauvais sort et obtiennent qu'au lieu de mourir, la princesse tombe simplement dans un sommeil qui durait 100 ans jusqu'à l'arrivée de son prince charmant. Le château est alors recouvert et protégé d'énormes ronces en guise de protection. Et tout le monde tombe dans le sommeil. En fait, c'est là que notre histoire commence. 100 ans après, les villageois, après s'être battus, pillés les uns les autres, puis enfuis de la ville alentour, ont laissé le temps faire son affaire. On est donc 100 ans plus tard, la princesse se réveille, saute sur le cheval blanc de son prince et se casse 5 minutes après son réveil, juste le temps de boucler ses valises. Les gens du château, eux aussi éveillés après 100 ans et n'ayant plus ni souverain, ni famille en vie, se dispersent alors à leur tour. Seules les 3 dames de compagnie de la princesse restent et entretiennent le château, un lieu de refuge et de paix pour ceux dont la vie n'a pas toujours été un conte de fées. Nous allons suivre l'arrivée de Jane à Château-la-Tente, que l'on voit au tout début partir de sa demeure, enceinte, l'œil tuméfié et la lèvre enflée. À Château-la-Tente, c'est un quotidien matiné de fantastique par les esprits magiques qui lui hantent, un chevalier cheval, un intendant cigogne et une religieuse à barbe. Le château n'est pas attaqué, on n'ourdit pas de terribles complots, on ne réalise pas de maléfiques rituels. En fait, en un sens, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, je suis scotché à chaque page. Les messages passent au détour des conversations, des situations, et heureusement pour moi, le livre était divisé en chapitres, ce qui m'aide à m'arrêter, à en découper la lecture pour mieux la savourer. C'est un peu comme quand j'ai regardé Downton Abbey. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, et pourtant, on est captivé et on enchaîne les épisodes.
C'est vrai.
J'ai notamment particulièrement adoré le récit sur l'ordre des Sollicitines, ses sœurs à barbe à la grande philosophie. Alors, encore une BD en noir et blanc. Petit format, c'est toujours pas mon style préféré. Et pourtant, comme ce fut le cas pour l'île Bourbon, je ne l'imagine pas vraiment autrement. Le trait est efficace, il marque bien les surfaces et il souligne à merveille ce récit d'une vie simple et reculée tout en explorant de nombreux sujets sociaux. L'humour est quasi omniprésent, fin, distillé, tout ce que j'aime en fait. Vous avez pu en avoir un léger aperçu dans ce que j'ai lu. Les personnages sont travaillés, très intéressants, capables d'évoluer, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines bandes dessinées, et chacun apporte sa petite touche au récit. J'ai vraiment passé un excellent moment devant Château-la-Tente, première intégrale, deuxième intégrale, et devant la micro-intégrale, qui en fait est le tome 2,5, qui n'avait pas été intégré au début par l'éditeur américain et qu'il a fallu qu'elle se batte pour pouvoir intégrer. Le seul reproche que je pourrais faire à Château-la-Tente, finalement, c'est que le tome 1 est super facile à trouver, il y en a énormément sur le marché de l'occasion, mais que les tomes 2 et 2,5 ont été un véritable calvaire à me procurer. En fait, j'ai trouvé un tome 2 en France, et au bout de la 9e page de recherche Google, j'ai trouvé un tome 2,5 dans une librairie aux alentours de Paris. Alors, pourtant, ça fait pas si longtemps, ça fait moins d'une dizaine d'années que ça a été publié, et on se retrouve avec une BD où il y a dû y avoir un nombre ultra impressionnant de tome 1 qui ont été produits et quasiment pas de tome 2 et 2,5. Sans parler du tome 3 qui a été fait en 2016 par Linda Medley et qui, à mon avis, ne sera jamais traduit et n'arrivera jamais chez nous. Et c'est bien dommage parce que Château-la-Tente, c'est de la bombe.
Voilà, je m'étais emmêlé dans les boutons. Merci beaucoup, François. Alors du coup, c'est terrible en même temps, parce que d'un côté, tu nous donnes vachement envie de découvrir cette BD, et en même temps, tu nous dis qu'elle est introuvable. Enfin, le tome 1, si, on peut le trouver.
Le tome 1 forme déjà une première partie de l'histoire, mais effectivement, pour moi, c'était assez compliqué de s'arrêter là, surtout en espérant en parler au sein de la bande FM. Et voilà, je vous avais posé la question aux différents membres de la bande FM, et comment vous faites-vous pour trouver une BD qui est plus éditée, en fait? Et que ce soit la Fnac, Amazon, Vinted ou ce que vous voulez, elle était introuvable. J'ai trouvé le tome 2 sur Bubble, il y avait une librairie à Nantes qui l'avait, et le tome 2,5, il a vraiment fallu que je me bouge. Je vous dis 9 pages de recherche Google pour tomber sur une librairie.
C'est presque une aventure en soi. On pourrait faire l'objet d'une bande dessinée, tu vas nous raconter.
Ça c'était le trajet en bus pour y arriver.
Mais sinon, ce qui est pas mal pour le livre d'occasion, c'est Recyclivre. Et en fait, depuis quelques temps, là, ils sont en train d'inonder le marché de bouquins qui étaient plus trouvables. Et donc on fait chuter les prix de bouquins justement qui étaient juste détenus par des particuliers qui mettaient des prix exorbitants parce qu'ils étaient le seul à l'avoir. Et là, depuis qu'ils sont arrivés sur le marché, les prix ont tendance à baisser, donc c'est plutôt cool.
Oui, tout à fait. Alors, je ne l'avais pas trouvé chez eux, mais, mais tu as raison, j'avais eu ce réflexe-là pour certains comics où effectivement, il y a des scalpeurs qui les achètent à leur sortie. C'est des tirages limités et on les retrouve à entre 3 et 5 fois le prix un mois après, puisqu'il n'y en a plus en boutique.
Eh bien, les amis, je vous propose de faire une petite pause musicale, la première de notre émission, et on va écouter Isobel Campbell et Mark Lanegan pour une chanson qui s'intitule « Revolver ».
En direct sur Timbre FM au 106.6 dans la bande FM. Vous venez d'écouter Mark Lanegan et Isobel Campbell pour Revolver. Alors, il me semble que c'est à toi, Thomas.
Ouais. Alors attends, parce que je gère les boutons et puis en même temps, je prépare ma chronique, ma BD. C'est bon, je suis prêt.
C'est tout bon, t'es prêt ? On est parti ?
Alors moi, je vais vous parler de J'y vais, mais j'ai peur. Sous-titré Journal d'une navigatrice. Alors ça a été écrit en collaboration entre Clarisse Kremer et Maud Benezit. Alors Maud Benezit, peut-être que vous la connaissez, c'est elle qui avait écrit Il est où le patron ? Chronique paysanne aux éditions Marabout. Et là, cet ouvrage-là, c'est aux éditions Delcourt et c'est paru en 2024. C'est tout récent. Alors le récit commence en 1999, alors que Clarisse est au collège et se pose des questions sur son avenir. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et puis, elle nous raconte rapidement les événements et les rencontres qui l'amènent à s'engager pour le Vendée Globe en 2020. Alors, le Vendée Globe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une des épreuves les plus longues et les plus difficiles de course au large, dans les océans les plus redoutés de la planète, et tout ça sans assistance et sans escale. Et alors, dans la BD, on arrive assez vite à la page 48, et là, c'est parti. C'est parti pour 3 mois de navigation en solitaire autour du monde et 200 pages de lecture complètement immersive et addictive. Alors là, c'est pas comme ta BD, François, qu'on lit par étapes. Les 200 pages, tu les lis d'une traite, d'affilée. et on découvre le Vendée Globe de l'intérieur et surtout dans l'intime. Elle raconte la nourriture, la gestion du sommeil, la gestion de l'hygiène, les réparations sur le bateau, les galères, les moments de joie, et puis aussi la relation avec les proches, avec l'équipe technique, les médias, et puis ses états d'âme, les variations de l'humeur, enfin le quotidien quoi, mais enfin le quotidien sur un bateau qui file à une vitesse folle sur des mers complètement démontées. Les dessins de Maud Benezit, elles ont l'art de croquer sur le vif tous ces petits moments de vie à bord du bateau qui filent à des vitesses incroyables. Alors parfois la mer est calme et puis c'est comme les émotions de la navigatrice en fait, ça oscille comme la mer, parfois c'est démonté, déchaîné et puis parfois c'est plus calme. Et en fait c'est tout un mélange de narration et de documentaire et ça fonctionne vraiment bien. En fait certaines planches sont remplies de plein de petits dessins assez simples, quelques traits rapides comme ça qui évoquent les situations avec beaucoup de dynamisme et puis viennent s'intercaler des sortes de croquis un peu légendés avec plein d'informations sur les bateaux, les manœuvres, la technique. Et puis au détour d'une page, on tombe sur des grandes pleines pages, des grandes images qui couvrent toute la bande dessinée. Et alors là, ça ouvre complètement le récit, ça l'aspire vers les grands espaces et aussi en général vers des considérations ou des réflexions un peu plus profondes sur la vie. Il n'y a pas du tout de case dans cette BD. Toutes les illustrations et les images sont libres, comme si c'était impossible d'enfermer le récit et de le priver d'une certaine forme de liberté. Et Clarisse, d'ailleurs, Clarisse Kremer, la navigatrice, parle de ce sentiment de liberté toute seule à bord de son petit bateau qui file à toute vitesse autour du monde et de la joie que ça lui procure. C'est d'ailleurs même la force de cette BD que de nous plonger dans l'intime de cette course. Alors, juste un extrait. On peut se demander ce qui nous pousse à risquer nos vies comme ça. Pourquoi fait-on le Vendée Globe ? C'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on cherche au fond ? Quelles sont nos motivations ? J'ai toujours eu tendance à répondre que j'étais attiré par la dimension géographique de l'aventure, par le fait de me dépasser. Mais en fait, la raison profonde est probablement plus complexe, plus intime. Comment expliquer les états d'âme si puissants qui nous traversent quand on est en mer et qui sont la raison précise pour laquelle on y va et on y retourne ? En fait, je sais pas. Et je sais pas est parfois la meilleure réponse à donner. La vie est lumineuse d'être incompréhensible. Et c'est une citation de Christian Bobin. Alors, on suit l'évolution de la navigatrice au fil du temps qui passe en mer et des pages que l'on tourne, de son hypersensibilité à tous les bruits qui l'entourent sur le bateau et qui l'empêchent de dormir. Et puis, peu à peu, elle prend confiance en elle-même, en son bateau. Elle apprend à lâcher prise. Et puis, elle construit jour après jour une relation vraiment de confiance en elle-même et puis en son bateau. Et puis, elle arrive à ressentir ce flot, cette espèce de sentiment d'équilibre parfait avec tout ce qui l'entoure, avec la mer et même avec l'univers. Et c'est une espèce de cocktail magique de plaisir, d'effort, de performance, une sensation complètement addictive. Mais la BD, elle aborde aussi de nombreux autres sujets qui sont souvent escamotés quand on parle d'ailleurs de ces grandes courses au large ou du Vendée Globe, qui sont un peu tabous à propos de cette discipline. Par exemple, les collisions avec les baleines et les autres mammifères marins. Ou encore ce qui concerne la pollution et le paradoxe qu'elle ressent, elle, Clarisse Kremer, d'être proclamée ambassadrice des océans alors qu'elle participe à une compétition dont le concept est quand même d'aller toujours plus vite sur un bateau en carbone qui coûte une énergie folle à produire. Et puis, elle parle aussi du fait d'être une femme, un petit peu comme on en parlait en tout début d'émission. Et là encore, il y a vraiment de la subtilité et de la nuance dans ce qu'elle apporte. Elle reconnaît qu'elle a bénéficié, elle, d'une discrimination très positive grâce aux médias, aux sponsors qui lui ont permis de participer à la course. Si Banque Populaire, à l'époque, en 2020, l'a contactée pour l'engager sur la course, c'était aussi parce que c'était une femme et elle raconte qu'elle côtoie aussi plein de marins hommes qui aimeraient bien participer au Vendée Globe mais ben qui ont du mal à trouver des sponsors. Mais elle s'insurge aussi d'être sans cesse ramenée à cette condition. Elle exprime l'envie que ce ne soit plus un sujet. Elle veut juste être un marin comme les autres. Alors voilà, même si on n'y connaît rien en bateau, en voile, en course au large, cette BD est un concentré d'émotions et de réflexions. C'est pas juste un énième récit de vie personnelle ou une autre BD documentaire un peu froide et aride. Il y a quelque chose de vraiment authentique, de juste et de simple dans le récit de cette aventure. Une aventure incroyable, mais qu'elle raconte un peu dans le style « Ben voilà, un jour j'ai pris mon petit bateau, puis comme il y avait du vent, ben, je suis parti faire le tour du monde. » terminer avec une dernière citation de Christian Bobin, qui est tirée de cette bande dessinée. Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles.
Alors, avant tout, tu aurais largement mérité un petit jingle de Chronique à la mer. Je te l'aurais prêté avec un grand plaisir.
Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait ça.
Mais tu fais du bateau aussi, non, Thomas ?
Ouais, je fais aussi du bateau. Alors, c'est pour ça que j'ai dit à la fin que même si on faisait pas de la voile et du bateau, mais clairement, oui. Après, dans l'histoire, oui, moi j'ai eu le plaisir aussi de découvrir comment ça fonctionne sur ces IMOCA, là, ces espèces de grands voiliers. Mais elle raconte, quoi, 15 minutes pour chaque manœuvre. Alors, sur mes petits bateaux, moi, quand je fais, on fait un virement de bord, ça prend 30 secondes. Là, elle, sur le bateau, c'est 15 minutes d'effort à chaque fois. Il faut qu'elle déplace tous les sacs d'un côté à l'autre et puis qu'elle manœuvre après les voiles et l'ensemble. En fait, c'est ça qui est étonnant dans cette BD, c'est ce décalage entre ce qu'elle raconte, qui est juste une prouesse inimaginable, et puis la façon qu'elle a de le raconter d'une simplicité, en fait, en disant ben voilà, je fais ça, j'ai appris la cartographie, j'ai appris à réparer les bateaux, j'ai appris tout ça, puis je suis parti, et puis l'intime, quoi, quand elle décrit vraiment les sensations et ce qu'elle ressent sur le bateau, puis le décalage parfois, parce qu'elle a des moments aussi de, mais un peu comme tous, en fait, dans notre vie de tous les jours aussi. Elle est sur un bateau à des milliers de kilomètres, mais où, alors elle envoie un message à ses proches parce qu'elle est dans un moment de galère pas possible et de ras-le-bol. Voilà, puis le temps passe, elle voit un magnifique coucher de soleil où elle croise des oiseaux, enfin d'un seul coup tout va bien, puis là elle reçoit la réponse des proches qui s'inquiètent en se demandant ce qui se passe, et alors elle raconte comme ça le décalage qu'il peut y avoir des fois complet entre ce qu'elle vit elle là sur son bateau toute seule et puis la Terre.
Juste avant de finir, je trouve que ça vaut le coup aussi de souligner que le Vendée Globe et la voile en général, c'est un des seuls sports mixtes. Voilà.
Il n'y a pas de catégorie. Ouais, les marins concourent tous les uns contre les autres, mais tous ensemble, quoi. Et pour la petite anecdote, du coup, ce qui est très particulier, elle en parle un petit peu à la fin de cette bande dessinée, c'est que du coup, Clarisse Kremer, qui a donc été recrutée par Banque Populaire en 2020 pour faire le Vendée Globe, a été assez sauvagement jetée là dans la préparation du Vendée Globe 2024 par le même Banque Populaire parce que, eh ben, elle avait eu un enfant et que Banque Populaire ne la soutenait plus. Alors elle en parle, mais sans trop d'acrimonie, en disant ben, elle reconnaît quand même aussi que c'est un peu grâce à ce sponsor-là qu'elle a pu mettre le pied à l'étrier et participer. Et puis elle a trouvé d'autres sponsors, et donc là elle participe en 2024. Elle repart sur les mers du globe.
Trop super.
Bon, et toi Alexandre, tu voulais parler d'une BD aussi ?
Ouais, moi alors du coup je voulais vous parler d'une BD qui a été réalisée par Pénélope Bagieux. Donc cette BD, elle s'appelle Culottée. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dans l'histoire de l'être humain, les femmes n'ont pas vraiment été mises en avant. Justement, culottées, ce sont des femmes qui ont mené leur vie comme elles l'entendaient, indépendamment des injonctions de la société ou des opinions des autres. Donc l'auteur Pénélope Bagieux met ou remet des femmes qui sont devenues dans leur domaine des porte-drapeaux. Avec un ton léger et humoristique, elle raconte rapidement leur histoire, ce qui vous donnera certainement l'envie d'en savoir plus à travers des recherches ou des ouvrages. Les choix des femmes retenues par l'autrice se caractérisent par une grande diversité d'époques et d'origines culturelles, sociales ou nationales. Elles sont stars du rock, journalistes, transgenres et chanteuses, impératrices, activistes, militantes féministes, athlètes. Elles sauront vous inspirer ou bien vous gonfler à bloc pour mener votre propre vie. Et puis pour les fans d'animation, il existe une adaptation de ce roman graphique de 30 épisodes de 3 minutes et 30 secondes sur le site de streaming France Télévisions. Donc il existe en 2 tomes de 15 histoires ou alors dans un tome intégral de 30 histoires.
Ouais, je sais que c'est un ouvrage qu'on trouve beaucoup dans les CDI et dans les bibliothèques, dans les écoles. Enfin, moi je sais qu'on l'a au CDI. Et je trouve ça cool de s'intéresser à l'histoire, à la place des femmes dans l'histoire aussi. J'en profite pour vous donner cette merveilleuse information que le mois de mars aux États-Unis, c'est le mois de l'histoire des femmes et que donc dans les écoles, ils se concentrent justement là-dessus. Voilà, et que moi je fais ça avec mes élèves du coup, à partir de après-demain.
Très intéressant. Non, ça me donne effectivement encore plus envie de le lire. Je l'ai offert il y a pas longtemps à une amie à laquelle je savais que ça plairait et j'ai dérogé à votre tradition, je n'ai pas lu la BD avant le frère, donc j'attendrai qu'elle ait fini.
Eh ben, merci pour cette recommandation. Moi non plus, je ne l'ai jamais lu, je vais l'emprunter au CDI.
Je te le conseille, c'est super. Et puis c'est vraiment, après c'est toujours des histoires très condensées, donc on... après du coup, quand je l'ai, comme je l'ai dit, à travers des recherches on peut en savoir plus, et à chaque fois il y a un petit résumé de la vie de la personne, quand elle, bah, de quand elle est née, quand elle est décédée, donc on, ça donne un, ça situe un peu l'histoire, et voilà, c'est vraiment super.
Bah, trop cool, bah, je la lirai au quart d'heure lecture. Et toi Marvin, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui?
Alors moi, je voulais vous parler de Clémentine de Tilly Walden, publiée chez Delcourt. Et alors pour présenter rapidement, Tilly Walden, c'est une autrice et illustratrice américaine. Elle a notamment écrit Spinning et Sur la route de West, et qui ont tous les deux en fait gagné le prix Eisner, donc un prix très prestigieux aux États-Unis pour la bande dessinée. Et en fait, ici, dans cette BD-là, elle reprend l'univers de Walking Dead, écrit par Robert Kirkman et dessiné par Charlie Adler. Et en fait, elle reprend un personnage qui est tiré d'un jeu vidéo, lui-même tiré de la licence Walking Dead. Et on suit justement ce personnage de Clémentine, qui est une jeune ado. Et au début, elle est seule, on sent qu'il lui est arrivé quelques trucs. Bon, déjà, elle a une jambe en moins. Donc, tu te doutes que sa vie n'a pas été facile. Et, mais c'est, le monde est déjà établi comme OK, maintenant, on vit avec les zombies. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Walking Dead, hein, c'est ça. C'est du jour au lendemain, des zombies apparaissent. Et le but, justement, c'est de reconstruire une société et survivre. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant avec l'univers qu'elle a construit de son côté, c'est que c'était vraiment différent de Walking Dead. Je trouvais pas la chose était vraiment différente, dans le sens où dans Walking Dead, leur but souvent des personnages, c'est de se regrouper et créer des communautés pour pouvoir reconstruire une société tout le temps. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que Clémentine, son but à elle, en fait, pour elle, la communauté, c'est une idée vaine, ça a échoué. Et elle se retrouve seule, et pour elle, maintenant, le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester seule. Et c'est notamment au fait qu'elle a perdu des êtres chers, elle se dit « bah non, je veux plus m'attacher ». Et donc, pour éviter ça, elle cherche à rester seule, mais elle finit par faire des rencontres, etc. Et elle se rend compte que non, il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et non, l'histoire est hyper intéressante, même le style graphique. Alors, j'ai regardé un peu d'autres planches d'autres de ces BD, on le reconnaît, mais il y a quand même des influences de Charlie Adler, puisque c'est un noir et blanc, c'est comme ça que c'est caractérisé, mais très noir, en fait, très sombre. Et elle reprend un peu ce style-là, mais tout en l'adaptant. Et je trouvais que ça n'avait rien à envier à la série Walking Dead. C'était vraiment très cool comme histoire annexe. Et là, c'est le premier tome, et ce sera en 3 tomes.
Cool. Et ouais, moi j'avoue que j'ai jeté un coup d'œil sur les BD un peu de tout le monde en arrivant, et j'ai vu que c'était Clémentine, et j'ai vu qu'il y avait Walking Dead décrit au-dessus, et j'étais là, mais je croyais que c'était un personnage de la version Telltale de...
Ouais, c'est ça.
Du coup, d'ailleurs, je ne pourrais recommander assez ces jeux vidéo qui sont incroyables. Et particulièrement The Wolf Among Us, qui n'a rien à voir avec Walking Dead, mais qui est une adaptation d'un comic qui s'appelle Fable, et qui est trop super.
Et du coup, là, c'est parti pour 3 tomes. Ils s'arrêteront vraiment à 3 tomes, parce que...
Ouais, je crois que... Il me semble qu'aux États-Unis, les 3 ont dû être publiés.
Déjà
et, okay. Parce qu'il y a déjà la couverture du 2 et tout, donc je pense que c'est déjà fait. Et ouais, on sent que c'est pas fini à la fin du 1, ils repartent sur autre chose. Mais oui, ça va être fini en 3 tomes.
Elle retrouvera-t-elle une jambe?
je ne pense pas.
Non, c'est pas la question.
Elle va pas repousser, quoi.
C'est intéressant que tu parles du prix Eisner, parce que j'ai regardé effectivement dans mes recherches sur Château Latente que Linda Medley était la première à l'avoir reçu.
Ok.
En 1998, de mémoire. Première femme à obtenir ce prix.
C'est enfin, marrant, quand tu parles de Château Latente, on dirait que tu parles d'un grand vin.
Mais oui, grave.
Vous n'êtes pas les premiers à me le faire remarquer.
Bon, bah, que de conseils intéressants et de lectures futures qu'on a envie de se plonger dans ces ouvrages-là. Je ne sais plus du tout ce qui se passe maintenant, Charlotte.
Eh bien, alors maintenant, on était sur... on a réussi, exploit incroyable, à tous les 5 lire la même bande dessinée.
C'est la BD en commun. On n'a pas de jingle, François,
non,
je crois, pour celle-là.
Je crois qu'on a...
Je travaillerai sur un jingle BD en commun.
On a un jingle débat, le LBD, mais je crois qu'on n'est pas si en désaccord que ça. Donc
C'est ça, c'est pas vraiment un débat, c'est plus que... Voilà, on a lu tous ensemble Perpendiculaire au soleil, qui est une BD de
François. Valentine Cugny-Lecalais.
Merci beaucoup.
Merci François.
Et voilà, on a des avis qui se rejoignent et puis d'autres qui divergent un petit peu. Alors je sais pas, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu, toi tu l'as lu récemment je crois.
Je l'ai lu ce matin. C'est très très frais.
Alors tes impressions?
À mes impressions, bah il y a un message qu'on essaie de faire passer qui est plutôt cool, c'est par rapport à la ségrégation et aux internés qui sont du coup noirs. Et donc ça, ce message globalement, il est cool, mais j'ai trouvé la BD personnellement un peu longue et que, après souvent on essaye de faire, on me donne du détail pour qu'on s'attache aux personnages, etc., pour comprendre le monde dans lequel on vit. Bon, pour le coup, le monde, c'est notre monde actuel, mais c'est leur monde à eux pour le coup. Mais j'ai trouvé ça un peu long et des fois il y avait des détails qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et il y avait aussi toute une dimension très artistique qui moi m'a moins parlé pour le coup.
Okay. Oui, parce que pour quand même resituer pour tout le monde, Perpendiculaire au soleil, c'est l'histoire de Valentine elle-même, en fait, qui à 19 ans a décidé de se lancer dans une correspondance épistolaire avec un prisonnier du couloir de la mort aux États-Unis. Donc on suit l'évolution de cette relation tout au long de la bande dessinée. Enfin, je crois, car moi, sa lecture est beaucoup moins fraîche que celle d'Alexandre. Et moi, j'avais fait une Charlotte, hein, clairement, comme on aime à créer cette expression ici. J'ai vu la couverture, je me suis dit « Waouh ! Mais elle est trop belle, cette couverture ! Moi qui n'aime pas le noir et blanc, d'habitude !» Donc, sur la couverture, on a la représentation de... J'ai oublié son nom.
Reynaldo,
tout à fait, merci. Le prisonnier en question, ça ressemble plutôt à un peu de la linogravure en termes d'esthétique, et on peut voir des plantes qui sortent du côté, donc elle est très très belle. Et moi j'avoue que je l'ai lu il y a quelques mois, je me rappelle qu'on en avait parlé déjà avec Thomas, et je me rappelle très peu de l'histoire. Je me rappelle surtout avoir été portée par les dessins, que j'ai trouvé incroyable. L'alternance entre les différents types de dessins, les croquis type crayon de papier, les dessins au stylo bic qu'elle reçoit parfois de Reynaldo. Ouais. Et justement, toutes ces étapes en linogravure, parce qu'elle ne se sentait pas de représenter de façon très précise... la vie de ces personnes qu'elle connaissait pas au début. Donc moi, c'est vraiment... je me suis laissée porter par le flow artistique de la BD et je me suis pas trop attardée sur l'histoire, en fait. Je me rends compte que je m'en rappelle pas bien.
Bah écoute, moi, c'est un peu plus frais parce que vous m'avez fait remettre les pieds dans une bibliothèque. Je pense que ça faisait 20 ans que j'étais pas dans une bibliothèque et il s'avère que par chez moi, les bibliothèques sont gratuites et accessibles à tous, ce qui est vachement chouette. Merci le Val-d'Île-Dominier. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'effectivement, vous en aviez parlé. Il me restait 2-3 phrases en tête. Et je l'ai réservé en ligne, en fait, en m'inscrivant sur ces bibliothèques. Je suis allé le chercher. On m'a dit « Ah, mais c'est dans les romans graphiques. » Bon, déjà, je faisais un peu la tronche. Je n'aime pas les romans graphiques.
Il faut savoir qu'ici, à la bande FM, il y a un vrai problème avec les romans graphiques.
Tout à fait. Et du coup, en le prenant entre les mains, je fais « Ah, mais c'est ça !» C'est ça, en fait, dont j'avais entendu quelques bribes de paroles. Donc, je me suis lancé de façon, on va dire, pas tout à fait neutre dans la lecture de ce qui est vraiment cette correspondance et en même temps les points que Valentine Cugny-Lecalais a envie de mettre en avant et qu'elle illustre avec des dessins. Donc, on n'est pas vraiment, pour moi, dans la bande dessinée au sens où le dessin ne retrace pas l'histoire, mais vraiment, il accompagne les mots de Valentine. Mmh. Ça reste mon avis, hein. On découvre effectivement cette relation qui se crée. Il y a parfois, comme tu le disais, des choses qui sont très précises, très réalistes. Et puis finalement, d'un coup, on a des dessins qui sont très figurés, qui sont très représentatifs, sur lesquels on peut passer de longues minutes pour analyser. Tout m'a pas forcément plu. Elle s'attarde sur des détails qui, en soi, m'intéressent pas particulièrement. Mais c'est vrai que cette histoire de fond peut... Enfin, je pense ne peut pas nous laisser neutre et nous fait forcément nous poser des questions et réfléchir sur sur la justice, sur l'isolement, sur la façon de traiter nos concitoyens et puis encore et toujours comme c'est le cas aux États-Unis la joie de la ségrégation.
Ouais.
Mais elle a réussi justement à partir d'une histoire personnelle avec cet échange à élargir le propos et à parler de la condition des prisonniers, de la ségrégation, etc. Et ça que je trouve intéressant aussi, c'est que ça s'arrête pas seulement justement à cette expérience personnelle, mais que ça s'étend plus largement pour mettre le doigt sur des problématiques qu'a pu rencontrer Reynaldo et plein d'autres en fait.
Ouais, bah moi j'avoue que je l'ai lu deux fois. La première fois, c'est une BD qui m'avait laissé un sentiment un peu de, je sais pas, un arrière-goût un peu amer, quelque chose de, elle m'avait mis un peu mal à l'aise en fait.
Ouais, je me rappelle qu'on avait dit ça.
Surtout dans, alors sur les images incroyables, les dessins, la linogravure, tout ça, il y a vraiment des choses époustouflantes. Après, c'était sur l'histoire, sur le fait que elle semble tout dire parce que c'est autobiographique et en même temps il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de choses qui sont pas abordées, qui sont pas évoquées et du coup on sait pas trop. Cette relation au début, elle veut pas du tout savoir pourquoi il a été condamné à mort, pourquoi il est dans le couloir. Et puis petit à petit, en fait, elle va quand même faire des recherches pour essayer de découvrir un peu son histoire. Et elle raconte du coup son histoire dedans. Et alors voilà, il y avait quelque chose comme ça, de, un peu de voyeurisme aussi où elle expose un petit peu toute cette vie-là. Et puis de pas trop savoir finalement c'est quoi cette relation qui se construit. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est autre chose? Tout ça n'est pas très clair. Et puis j'ai laissé passer un petit peu le temps et je l'ai relu une deuxième fois, bah, du coup avec un regard un peu différent en fait, puisque j'avais déjà découvert une première fois. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très délicat en réalité et pas ma deuxième lecture, mais je l'ai trouvé beaucoup plus apaisé, plus sereine et j'ai pas ressenti le même malaise en fait qu'à la première lecture. Donc peut-être que c'est une BD qui demande à être lue plusieurs fois. François, je suis désolé.
Mais moi, je dois dire que je suis assez d'accord avec toi. Parce que j'avais aussi ce sentiment qui m'avait mis un peu mal à l'aise. Je trouvais qu'elle était très absente de sa propre BD, en fait. Il me manquait, moi, un point de vue interne à cette histoire, parce que c'est elle qui l'écrit, mais en fait, on parle très peu d'elle.
Et tu sais quoi? Et c'est très étonnant parce que j'avais eu la même sensation et on en avait discuté. Et quand je l'ai relu la deuxième fois, j'étais du coup très attentif. Et en fait, elle apparaît à plein d'endroits.
Ouais.
Et c'est étonnant. Première lecture, on a l'impression, ouais, en effet, que c'est très effacé, qu'on la voit pas dans cette BD. En réalité, si, elle est très, très présente dedans.
Il y a même des passages où, en fait, on parle pas du tout de Reynaldo. C'est quand elle passe aux États-Unis, quand elle fait certaines choses ou quand elle fait certaines recherches. Ou au contraire, en fait, on est vraiment, je trouve, très centré sur elle, quoi.
Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup l'histoire de Reynaldo et ses ressentis et ses croyances et elle, à part au début, assez peu.
Ouais, ok, d'accord, effectivement, je vois ce que tu veux dire.
Eh ben, écoutez, je pense que la meilleure solution pour les auditeurs et les auditrices, ça va être d'aller lire cette bande dessinée ou ce roman graphique, alors, pour se faire leur propre idée. Je pense qu'on a le temps de se faire une dernière petite pause musicale avant de passer au BD Minute. Alors, nous allons écouter The Kills et leur chanson s'intitule Satellite. C'est comme ça qu'on dit, Charlotte?
Oui. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Timbre FM au 106.6 en direct à l'écoute de la bande FM. Malheureusement, notre émission va bientôt toucher à la fin, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons réservé le traditionnel BD Minute avant de vous libérer.
BD Minute, une minute pour une BD.
Alors c'est parti, et si on s'échappait, si on s'enfuyait pour de bon dans un autre univers, un univers virtuel qui ouvrirait le champ des possibles. Alors c'est le titre de la BD d'Anaïs Bernabé et Véro Caso aux éditions Dupuis, Le champ des possibles. Marsu est une jeune architecte qui construit des habitations éco-régénératrices et durables. Elle est en couple avec le charmant potier Harry, mais elle rencontre Tom, architecte en réalité virtuelle, dont elle tombe peu à peu amoureuse dans le monde virtuel qu'il a créé, Atom. Les vignettes sont doucement arrondies, les couleurs vives et les variations dans le style des dessins accompagnent la navigation d'un univers à l'autre, les oscillations de Marsu, ses vacillements, ses questionnements. Le scénario est envoûtant et il entremêle les vertiges de l'ASF, c'est-à-dire vivre à la fois dans le monde réel et dans un univers virtuel où l'on peut être qui l'on veut, ce que l'on veut, aimer qui l'on veut, faire ce qu'on veut, et une réflexion sur l'amour et le désir, l'impossibilité de renoncer, la maternité. Une magnifique BD belle et passionnante.
Ah, c'est à toi.
Alors moi c'est Fun Girl d'Elisabeth Peach chez Les Requins Marteaux, et cette BD est juste trop trop drôle. Il y a, en gros, ça raconte l'histoire d'une fille complètement décomplexée, qui se masturbe tout le temps, qui fait plein de conneries, qui travaille chez les pompes funèbres, et c'est juste trop marrant. En fait c'est un peu plein de scénettes à la suite, et c'est très très drôle, elle casse toutes les conventions et tout ça. Et cette dessinatrice, là, Elisabeth Peach, à la fin, il y a sa description et c'est mis « Elle travaille actuellement sur un algorithme qui lui permettra d'écrire plein de blagues automatiquement afin d'avoir tout le temps libre nécessaire pour savourer des barres aux noix. » Et je trouvais que ça résumait bien un peu la pensée, c'est-à-dire que elle veut écrire plein de blagues, et peu importe si ça choque, si c'est des sujets un peu tabous, elle s'en fout, et juste parce que ça peut faire marrer. Et c'est vrai qu'il y a des plans, j'ai vraiment rigolé tout seul dans mon lit comme ça face à la BD. Franchement, très 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 drôle pour le coup.
En fait, j'avais plein de temps, j'aurais pu continuer.
Alors c'est à moi. Moi c'est Des mots à dire de Béa Lema aux éditions Serbacane. Alors c'est un livre, c'est une collègue qui me l'a prêté. Mais j'ai tout de suite été séduite par sa couverture comme d'habitude. Ce qui est très marrant, c'est que dans les illustrations, il y a à la fois des dessins et il y a des œuvres de couture et de broderie. Alors, j'ai qu'une minute, donc je ne vais pas les chercher, je vous les montrerai après. Donc, on suit l'histoire de Vera et de sa mère qui a une maladie mentale et qui ne prend pas bien ses cachets. Donc, c'est vraiment toute une BD sur la relation mère-fille et sur la relation fille qui doit s'occuper de sa mère un peu, en fait. Et elle est très belle et je la conseille vraiment. J'aime beaucoup tout ce fouillis de dessins, de couture. On se croirait presque un peu dans l'esprit de la maman de Vera qui croit que le diable est là pour venir la chercher. La BD s'ouvre sur un rendez-vous chez une repouteuse.
Ok, moi je vais vous parler de Un rêve de renard de Mina Sundberg aux éditions Aquileos. C'est une BD qui parle de la mythologie finlandaise qui, à travers un récit moderne. On va suivre Anu, un garçon un peu insupportable qui préfère être tout seul avec son chien Ville et parcourir la forêt et les espaces sauvages plutôt que de faire son travail. Il va s'avérer que Bébé Renard, de la famille des Esprits Renards, va faire une petite boulette pendant qu'il a la charge de l'humanité pendant le Conseil des Renards, et va transporter tout le village de Anu dans un rêve, donc dans l'équivalent de la Voie lactée dans la mythologie finlandaise, en fait, qui est là où il y a les oiseaux, puisque les oiseaux sont toutes les petites étoiles et emmènent les humains. Et Anu va se retrouver avec Ville à devoir retrouver tout un tas d'animaux totems pour pouvoir ramener petit à petit les gens de son village dans la réalité. C'est très joli, c'est très poétique, et j'ai trouvé dommage qu'il manque un petit peu un concentré tout ça.
Alors moi, je vais vous parler de Ne m'oublie pas, de, donc c'est un roman graphique d'Alix Garlin, de Alix Garin, excusez-moi. Donc le roman graphique, il parle de, on suit l'histoire de Clémence, qui est attristée du sort de sa grand-mère puisqu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc elle est au sein de son EHPAD, mais elle est triste de son état, elle peine à se souvenir de sa petite fille, et un jour elle décide de la kidnapper, donc de kidnapper sa grand-mère pour aller à la quête de la maison d'enfance de sa grand-mère pour lui rappeler, essayer de lui faire rappeler ses souvenirs, puisque sa grand-mère parle sans arrêt de cette maison au bord de la mer en Bretagne. Donc on suit la fuite de Clémence et sa grand-mère à travers la route jusqu'à la Bretagne, mais ça, c'est compliqué puisque sa grand-mère, par moment, ne se souvient pas de sa petite fille, donc elle se fait juste kidnapper, ou alors elle cherche ses parents qui sont du coup décédés depuis bien longtemps. Et donc c'est une histoire très 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 belle, qui, je ne vous promets pas des larmes, mais presque. Et donc c'est une histoire très courte, des couleurs très belles. Voilà.
Oh, bravo.
Ok, merci beaucoup. On va faire, si vous voulez bien, un rapide rappel des références. On commence avec Thomas et sa chronique quasi parfaite.
Alors c'était Le Champ des Possibles.
Il a triché.
De Anaïs Bernabé et Véro Casio aux éditions Dupuis. Et c'est une BD toute récente qui est sortie en 2024.
Marvin,
oui. Moi c'était Fun Girl d'Elisabeth Peach chez Le Requin Marteau.
Moi c'était Des mots à dire, des mots M-A-U-X à dire, Béa Lema aux éditions Sarbacane.
Moi c'était Un rêve de renard de Mina Sundberg aux éditions Aquileos.
Et moi Ne m'oublie pas de Alix Garin
aux éditions Le Lombard. Eh bien, je voulais vous remercier d'avoir été là avec moi, avec nous, pour mettre en valeur les femmes dans cette semaine thématique. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
En tout cas, on espère que les auditeurs et les auditrices auront pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous à la faire.
Ouais.
Au revoir à tous.
Au revoir.
À bientôt dans la Monde FM.
Gros bisous. Comment est-il ?
Bisous.
Comment est sa cellule ? S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine.
De toute façon, sauf pour lire.
Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
C'était des BD porno de 8 pages.
Ouais, une seconde, non ? Je n'ai pas fini de lire.
Bande FM.
Vous voulez que je vous dise ? Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée.
Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.